Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 27 février 2021. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de 7h en français sur Radio SBS. Dans le programme aujourd'hui, nous partirons pour l'année 1913 dans notre rétrospective et le procès de la bande à Bono. Et nous partirons également dans l'espace avec la première astronaute européenne, Claudie Aigneret. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité. Pour aujourd'hui, la police fédérale australienne qui a été notifiée d'une lettre envoyée au Premier ministre détaillant une allégation historique de viol contre un haut membre du gouvernement. L'Arabie Saoudite dit qu'elle rejette complètement l'évaluation américaine sur le meurtre de Jamal Khashoggi. Et en sport, en football, Perth Glory se hisse à la 5e place du classement de la A-League après une victoire 3-1 sur Brisbane Roar. Ils sont 2e du classement. Débute donc ce journal avec la sénatrice des Verts, Sarah Hunsong-Yong, qui dit avoir reçu des informations concernant ce qu'elle appelle une information inquiétante et très grave et de nature criminelle contre un haut membre du gouvernement. La sénatrice travailliste Penny Wong a également confirmé qu'elle avait reçu une lettre anonyme concernant la même allégation de viol. Les deux sénateurs ont donc envoyé la lettre à la police fédérale australienne. La police de Nouvelle-Galles du Sud dit que la correspondance concerne un rapport d'accusation de violence sexuelle. Les faits se seraient passés en février de l'année dernière. Son enquête a été suspendue alors que la femme de 49 ans au centre des allégations est décédée. Le Premier ministre a publié une déclaration disant que toute allégation de cette nature faite à qui que ce soit et quoi qu'il s'agisse de parlementaires, de journalistes ou autres doit être renvoyée à l'AFP. Donc la police fédérale, SBS News attend une réponse de cette police fédérale. L'Arabie Saoudite rejette complètement un rapport américain déclassifié selon lequel le dirigeant du pays, le prince héritier Mohamed Ben Salman, a approuvé le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. C'était en 2018. Le gouvernement saoudien dans un premier jour a déclaré qu'il n'avait aucune information sur Khashoggi dit maintenant qu'il accepte désormais la responsabilité du meurtre mais qu'il s'agit d'une opération de voyous qui n'implique pas le prince. En l'honneur de l'écrivain assassiné, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé la loi Khashoggi qui interdira l'entrée aux États-Unis des étrangers qui menacent les dissidents ou harcèlent les journalistes ainsi que leurs familles. Il a également immédiatement placé 76 Saoudiens sur cette liste noire. La fiancée de Jamal Khashoggi, Atis Sengiz, a déclaré à CNN qu'elle a finalement accepté que son partenaire ne reviendra pas.
I am devastated than ever before. Now I believe he will never come back. I just looked Jamal's picture that I took it, yes. So I would like to see the world leaders to take an action for justice for Jamal. I can say that just now.
Voilà des propos très très forts. Les retours sur les faits de ce rapport avec Eric Dehab.
Aucune ambiguïté dans ce rapport très embarrassant pour Riyad. Nous estimons que le prince héritier d'Arabie Saoudite a approuvé l'opération pour capturer ou assassiner à Istanbul le journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi. Dans ces 4 pages écrites en 2018 par le renseignement américain, on lit également que Mohamed Ben Salman considérait Khashoggi comme une menace et soutenait des actions violentes pour le faire taire. Après l'assassinat du journaliste saoudien en 2018, ce document confidentiel déclassifié par la Maison Blanche Blanche avait été présentée au Congrès américain et à Donald Trump. Mais à l'époque, l'ancien président avait préféré ne pas en tenir compte pour préserver sa relation avec Riyad, principal acheteur d'armes des États-Unis. Changement de ton très net avec son successeur Joe Biden qui refuse de fermer les yeux. Washington va jusqu'à annoncer de possibles sanctions contre des responsables saoudiens. Cette administration ne va rien laisser sous le tapis, dit un officiel de la Maison Blanche. Ce rapport a été publié en l'honneur de Jamal Khashoggi. Après ce crime effroyable, notre but, poursuit cet officiel américain, est que cela ne se reproduise jamais.
Et c'était Eric Dérabe pour RFI. 13h05. Et on reste aux États-Unis et on débute aujourd'hui la grand-messe des républicains. Et on en parle. Pourquoi ? Donald Trump, l'ancien président américain, y sera présent et il y prendra même la parole demain dimanche. Un discours très attendu par ses partisans.
Pour savoir qui compte en ce moment au sein du parti républicain, il suffit de jeter un regard sur la liste des intervenants. Des sénateurs ultra-conservateurs comme le Texan Ted Cruz prendront la parole, mais aussi l'ancien chef de la diplomatie Mike Pompeo. Traditionnellement, ce grand show politique est souvent utilisé comme une première tribune pour les candidats potentiels à la présidence. Mais ce sera compliqué cette année car Donald Trump est encore omniprésent au sein du parti. Il reste le républicain le plus populaire auprès des Américains. Va-t-il se représenter ou pas en 2024 ? Les participants au congrès du parti attendent son discours ce dimanche avec impatience. Il est peu probable cependant qu'ils aient une réponse claire. Ce qui est sûr en revanche, c'est la division du parti mise en évidence par ce premier rassemblement du parti républicain après les élections. Plusieurs parlementaires et anciens proches de Donald Trump n'y participent pas. C'est le cas des sénateurs Mitt Romney et Mitch McConnell ainsi que l'ancien vice-président Mike Pence. Une absence qui illustre, selon des observateurs, une déconnexion entre le parti républicain à Washington et la base électorale qui reste fidèle à Donald Trump.
Et c'était donc Arim Lipold pour RFI. Le groupe de pop coréen, donc de K-pop, Blackpink, a été nommé défenseur du prochain sommet des Nations Unies sur le climat, connu, donc on connaît ça sous le nom de la COP 26, aura lieu à Glasgow, donc en novembre. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a écrit pour les remercier d'avoir utilisé leur plateforme pour parler du changement climatique. Jenny, membre du groupe, a déclaré à la BBC que le groupe était particulièrement ému et content de le faire après avoir regardé le documentaire de Sir David Attenborough, Une vie sur notre planète.
The documentary showed us how precious our planet is and how vulnerable it is right now. So we're losing more of the natural world every day and time is running out, we feel like. So we just really felt like we need to say something.
13h07, Joe Biden, le président américain, a déclaré que davantage de centres de vaccination sont en cours de déploiement pour garantir aux minorités ethniques l'accès au vaccin COVID-19 aux États-Unis. Donc cela intervient alors qu'un panel américain d'experts indépendants a voté à l'unanimité la recommandation pour le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson pour une approbation d'urgence. L'autorisation d'utilisation d'urgence devrait donc suivre dans quelques jours, ce qui fera du vaccin le troisième à être approuvé après Pfizer et Moderna, donc aux États-Unis. On écoute Joe Biden.
We've also started to send vaccines directly to community health centers to help the hard-to-reach folks in cities, small towns, rural communities, in Black, Latino, and Native American communities that have higher rates of COVID-19 infections and deaths than any other groups. Here in Texas, we're already partnering with 12 community health centers in 10 cities, which have combined sites at over 100 locations across the entire state. We're going to save people's lives.
Voilà donc le président américain Joe Biden. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demande à toutes les parties en conflit armé de s'engager immédiatement dans une pause humanitaire durable, étendue et soutenue pour un cessez-le-feu, donc pour permettre la vaccination contre le Covid-19. Le Conseil des 15 membres a adopté à l'unanimité et coparrainé une résolution rédigée par la Grande-Bretagne la semaine dernière. L'ambassadrice britannique à l'ONU, Barbara Woodward, a déclaré que la résolution aidera à fournir des vaccins à 160 millions de personnes dans la zone et dans les zones touchées par des conflits ou déplacées par des conflits.
But I'm much encouraged by the example, for example, of what we managed to do in Afghanistan in 2001, when in a two-day period, 35,000 humanitarian workers vaccinated 5.7 million children against polio. So on a case-by-case basis, these things are possible, and that's the next stage there.
13h09, une décision sans précédent en Italie maintenant. Des juges exigent la régularisation de 60 000 coursiers de plateformes de livraison, des plateformes dont Uber Eats et Deliveroo. Toutes ces personnes doivent être considérées comme des salariés et non comme des indépendants. Il y a également une amende de 733 millions d'euros pour ces plateformes. Et c'est une décision qui va dans le bon sens pour Jérôme Primo, porte-parole du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris.
Ça envoie un message assez fort. On sait que le patron d'Uber est en Europe en ce moment pour essayer de faire passer en Europe une loi sur le même modèle que celle qu'il a fait passer aux États-Unis, en Californie en particulier, qui est une loi qui autorise Uber à considérer ses livreurs, les livreurs de Uber Eats, comme des indépendants, pour éviter justement de rentrer dans la catégorie des employés qui évidemment coûterait plus cher à Uber. Donc cette décision en Italie, elle arrive à point nommé. Moi je salue le travail qu'ont fait les autorités italiennes parce que les choses sont très simples. Oui, en effet, on travaille dans des conditions de subordination et il fallait qu'un jour, quelque autorité s'en occupe. Ça fait des années qu'on le dénonce. C'est la mesure, en fin de compte, de la décision qui même moi, j'en ai jamais rêvé. Hein. Je suis tombé des nues quand j'ai vu les chiffres. Et puis les amendes, 733 millions d'amendes diverses. Donc oui, c'est un coup de tonnerre. J'imaginais pas ça. Et le modèle est en train de prendre l'eau de toutes parts. En fait, le modèle Uber, le modèle de l'ubérisation, de la plateformisation, ne tient plus juridiquement.
Voilà donc les propos de Jérôme Primo, le porte-parole du CLAP, le collectif des livreurs autonomes à Paris. 17 gymnastes britanniques ont intenté une action contre British Gymnastics après avoir affirmé être victimes d'abus systémiques, physiques et psychologiques. Les gymnastes derrière donc cette plainte disent qu'il y a toujours une culture abusive dans le sport en Grande-Bretagne qui doit être combattue et ce de toute urgence. L'une des plaignantes, Claire Hereford, a déclaré à Channel 5 News que sortir de l'environnement de la gymnastique du club était comme quitter une secte.
So in my situation, in the beginning there was physical abuse. There was one particular incident was quite horrific and very intimidating. I told my parents and they went in the next day to inform the club that this was not okay in the UK. But the consequence of that for me was that I was then basically dropped as a serious prospect. Unfortunately, many of the other gymnasts in my group did still receive those kinds of abuses because their parents weren't there to advocate for them.
13h12, environ 100 000 Australiens souffrant de maladies chroniques de la peau comme de l'eczéma sévère auront un accès à un nouveau médicament bon marché. Dupixent sera mis en disposition donc à un prix plus bas à partir de la semaine prochaine pour les personnes âgées de 12 ans et plus dont l'état de la peau ne peut être contrôlé que par les traitements habituels de l'eczéma. Le gouvernement fédéral dit qu'il dépensera 270 millions de dollars pour inscrire le médicament donc Dupixent sous le régime des prestations pharmaceutiques de Medicare. Le dermatologue Stephen Schumach affirme que le coût réduit pour les patients leur offrira plus d'options.
It gives us another option to treat our patients with severe atopic dermatitis, particularly those that have failed or have inadequately responded to some of the other agents that we've got to treat this group of severe patients.
13h13, hier en A-League, donc en sport, Perth Glory est devenue la première équipe donc du championnat de A-League de l'histoire du championnat à marquer 18 buts au cours des 6 premiers matchs donc d'une saison. 2 buts du capitaine Diego Castro ont contribué à mener l'équipe à une victoire 3-1 à domicile contre les Brisbane Roar. Ils sont actuellement deuxième du classement Brisbane Roar. L'entraîneur en chef de Perth Glory, Richard Garcia, dit qu'il est impressionnant de voir l'équipe remporter 3 matchs d'affilée. On l'écoute.
I'm proud of the guys that are creating those goals. I'm proud of the team that are continuously pushing to go forward and continually challenge themselves to be on the front foot. So, you know, those guys are doing that work and they're really, you know, taking what we're telling them on board. And it's fantastic to see them get the results from that hard work and that concentration.
Coup d'œil météo dans le pays, à travers donc le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 31 degrés, Adélaïde 28, Melbourne 21, Hobart 20, Canberra 27, Sydney 26, Brisbane 31, Cairns 31 et Darwin 33 degrés. On l'a vu dans le journal, la police fédérale australienne qui a notifié qu'une lettre a été envoyée au Premier ministre détaillant une allégation historique de viol contre un haut membre du gouvernement. L'Arabie Saoudite dit qu'elle rejette complètement l'évaluation américaine sur le meurtre de Jamal Khashoggi. Et en sport, on vient de l'entendre, en football, Perth Glory se hisse à la 5e place du classement du championnat après une victoire 3-1 sur Brisbane. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Et c'était Gaëtan Roussel et cette chanson Les Matins Difficiles. 13h25 minutes. On fait une courte pause et on part direction l'année 1913. Tout de suite après ça.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Nous sommes le 27 février dans notre rétro du jour. Eh bien, on nous emmène plus de 100 ans en arrière. Le 27 février 1913 se tenait le premier jour du procès de ce que l'on a appelé la bande Abono, une bande d'anarchistes, un gang qui, durant des mois, a tenu tête à la police, perpétuant en France et en Belgique des vols, des casses, des cambriolages. La bande Abono qui utilisait des automobiles et ridiculisait les forces de l'ordre équipées bicyclette. Jules Bonneau, le leader du groupe, avait été tué en avril 1912. Le groupe a finalement été démantelé. Le procès des survivants s'est tenu en février 1913, du 3 au 27 février. La bande Abono, c'est notre rétrospective du jour, avec en fil rouge la chanson de Joe Dassin et des extraits du film. La bande Abono, qui est sortie en 1968 avec parmi les acteurs un certain Jacques Brel.
Société Générale, une auto démarra, et dans la terreur, la bande Abono mit les voiles, emportant la sacoche du garçon.
Ceux qui firent trembler nos grands-parents, les dangereux anarchistes de la bande Abono. Au-delà de la guillotine et des coups de feu vengeurs de la police, ils reviennent et ils doivent leur résurrection au jeune metteur en scène, Philippe Fourastier.
Raconter l'histoire de la bande Abono, c'est une chose que vous souhaitiez faire depuis longtemps?
Depuis 10 ans.
Ce n'est donc pas le succès de Bonnie and Clyde qui vous a donné envie de trouver un homologue français?
Non, pas du tout, ça n'a rien à voir.
Pour vous, qui êtes très jeune, ces anarchistes du début du siècle, ils représentent quoi? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à eux?
Le côté social, si vous voulez, par rapport à l'époque. Le fait que c'était les précurseurs, enfin, des certaines idées qui sont défendues maintenant. Les héritiers de la commune, la gauche du socialisme, enfin, si vous voulez, tout ça m'intéressait.
Mais quand on dit la bande Abono, on a beau savoir que c'est une histoire bien réelle et réellement dramatique, ça fait tout de même, hein, je ne dis pas un petit peu rire, mais on a du mal à les prendre tout à fait au sérieux. Vous les prenez au sérieux?
Bah oui, évidemment, je les prends au sérieux. C'est-à-dire que quand on replace l'histoire dans l'époque, on s'aperçoit que la société, on a fait des bandits pour les discréditer en tant que politique, enfin en tant que, si vous voulez, que mouvement politique. Et le film, justement, là, essaye de les réhabiliter en tant qu'anarchistes. C'est le but du film.
Du garçon payeur, dans la deux dion bouton, qui cachait les voleurs. Octave comptait les gros billets et les valeurs. Avec Raymond la science, les bandits en auto, c'était
la bande Abono.
L'histoire de la bande Abono est indissociable de celle de son chef, Jules Bonneau, né en 1876 à Pont-de-Roide, un village du Doubs à proximité de Montbéliard. Et la trajectoire de celui qui allait pour la première fois introduire la voiture dans l'arsenal du crime prend sa source dans la région de Lyon, et à Lyon même, chez un constructeur automobile qu'il a engagé à cause de son talent de mécano. C'est là, dit-on, qu'il va parfaire son art diabolique de la conduite rapide, qu'il mettra au service du premier braquage motorisé de l'histoire. Ça s'est passé rue Ordener à Paris.
Café Crime.
L'argent du hold-up servira la cause. Il sera redistribué aux anarchistes dans le besoin. La police ne peut accepter d'être ridiculisée de la sorte. Elle s'active et passe tout au crible. Restaurants, hôtels, etc. Partout, on peut voir les visages de Jules Bonneau, Octave Garnier et leurs complices sur des avis de recherche. Les tuyaux arrivent de plus en plus nombreux et les arrestations aussi. Le 30 mars 1912, Soudy est arrêté. Dans ses poches, on trouve un pistolet et une capsule de cyanure.
Du puissant moteur, comment rattraper les coupables qui fuyaient à toute allure, à 35 à l'heure, sur les routes de France, hirondaient les gendarmes. Étaient à leur trousse, c'était nuit et jour en alarme, en casquette à visière, les bandits en auto. C'était
la bande à Bonneau.
Ils reviennent, et pour ce retour, ils ont emprunté des visages célèbres. Bonneau, c'est Bruno Kremer, Marie Larouge, Annie Girardot, Raymond La Science, c'est Jacques Brel.
Pour incarner l'un des desperados, la bande à Bonneau, l'un de ses enfants perdus de l'anarchie, prendre Jacques Brel, l'anarchiste, le pourfendeur de bourgeois, ça paraît presque comme une trop belle idée, une idée de cinéma. Qu'en pensez-vous?
J'en sais rien. Ouais. Et puis c'était pas des enfants perdus de l'anarchie, c'était des anarchistes.
Et des anarchistes sanglants?
Oh, pas tellement, non. Enfin, ils ont tué un peu de monde, mais...
Pas trop.
Moins que la guerre 14-18, enfin. Ils ont tué un peu de monde, oui. Pas beaucoup. Ils se sont déclarés finalement en état de guerre contre une certaine forme de société. Et assez courageusement, enfin, faut le dire. Je ne dis pas que je ferais la même chose qu'eux, mais c'était des hommes, enfin, ils avaient du courage. Ils l'ont fait parce que c'était, sauf Bonneau qui est un cas un peu particulier, mais la bande, donc c'était des anarchistes, ils étaient à peu près tous en usine à l'âge de 9 ans, enfin, à travailler des 12 heures, voire 14 heures par jour, et ils se sont donc rebellés contre cet état de fait. Je crois que c'est un réflexe assez normal.
Mais un bon matin, la police encercla la maison de Jules Bonneau. A choisi avec ses complices, il prenait dans sa chambre un peu de repos. Tout Paris arriva à pied, en tramway, en train, avec des fusils, des pistolets et des gourdins, hurlant des balcons, les bandits en auto. C'était
la bande à Bonneau.
Parce que Bonneau disait lui-même qu'il était anarchiste individualiste. Il n'était pas collectiviste, n'est-ce pas? Alors que les autres étaient plus collectivistes, tout de même.
Revenons en 1968, c'est votre second film après Les risques du métier, et il contribue à cerner un peu un personnage, celui de Jacques Brel, comédien, sur son évolution, sur son emploi. Quel rôle lui attribuez-vous?
Je ne suis pas comédien, enfin, je suis pas un comédien. On ne devient pas comédien comme ça. Et ben, c'est eux, là, qui m'ont demandé de venir là-dedans. Enfin,
et mon automain, tragique destin. Alors pour la dernière course, on mit dans le fourgon la bande à Bonneau.
French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h ou à tout moment en ligne.
Face à la mer, on veut tous grandir. Calo, pas si, trop jeune pour mourir.
Ah, il vient de le dire, c'était Calogero et Passy dans cette chanson qui disant bon la fin des années 90, les années 2000, face à la mer. 13h37, on fait une courte pause et on part direction l'espace avec cette belle interview que Grégory a fait avec Claudie Aigneret, première femme européenne dans l'espace, tout de suite après ça.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec nous sur SBS French, nous avons le plaisir d'avoir la première femme européenne à être allée dans l'espace. C'est Claudie Aigneret. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Madame Aigneret, la question que je voulais vous poser, vous êtes partie dans l'espace, donc forcément vous étiez très loin de presque tout le monde, sauf bien sûr des autres membres de votre équipage, pour le coup un tout petit groupe dans un espace confiné, même si la station spatiale internationale, c'est pas si petit que ça au final, mais enfin, on peut pas ouvrir la porte pour aller prendre l'air. Alors, vous évoquiez le fait d'avoir un objectif commun et évidemment beaucoup de travaux à accomplir tous les jours, mais ça doit être difficile malgré tout de vivre en permanence avec ses collègues.
Alors, il y a deux facettes dans votre question. Il y a à la fois cette vie d'équipage, on se connaît bien, on s'est entraîné de longue date ensemble, on partage cet objectif commun, on doit être dans la complémentarité pour maintenir la station, pour réaliser le programme scientifique. Donc, tout ça, ça nous soude. Et puis, on est ce petit groupe d'êtres humains, je le disais, qui partagent des moments très forts dans cette vie à la fois de travail, mais aussi la vie contemplative par le hublot. Ensuite, le deuxième élément, c'est que ce n'est pas tout à fait un confinement comme celui qu'on peut vivre en cette période de crise sanitaire. Parce que quand on est candidate astronaute et puis quand on part à l'entraînement, c'est vraiment quelque chose qui est un objectif de notre vie. Moi, c'était un rêve d'enfant. J'avais 12 ans en juillet 69, au premier pas de l'homme sur la Lune. Et voilà, cette petite étoile, cette petite étincelle du rêve possible de participer à l'aventure spatiale était en moi et m'a motivée. Donc, c'est une situation qu'on choisit, en fait, et pour laquelle on travaille, on s'investit pendant des années et des années. Donc, je dirais entre guillemets que c'est un confinement choisi et je dirais même qu'on est un petit peu frustré, nostalgique quand on doit sortir du confinement, partir de la station spatiale et revenir sur Terre. Donc ça, ce sont des conditions un petit peu différentes de ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec cette crise du Covid. Mais bien évidemment, sur une mission de très longue durée, plusieurs mois dans l'espace, je ne vais pas vous dire que l'équilibre est harmonieux et le moral est au beau fixe pendant 6 mois d'une situation où parfois il y a des moments répétitifs, des moments de difficulté dans l'organisation du travail. Mais ça, c'est un petit peu comme toute vie en société confrontée au problème du réussir ensemble et du vivre ensemble.
Et alors, par rapport à ça, tout à l'heure, vous parliez du deep space, l'espace profond, mais même en orbite, on reste beaucoup plus près, mais la communication avec la Terre, les proches, la famille, les enfants, est-ce qu'on peut leur parler aussi souvent qu'on veut? Est-ce que ça capte sur la Station Spatiale Internationale?
C'est une question intéressante et je vais vous répondre avec mon expérience, je dirais, d'astronaute du 20e siècle, du siècle dernier, une mission en 96 et une mission en 2001, mais c'était le 20e siècle. Et à ce moment-là, effectivement, sur ces 90 minutes d'une orbite, par exemple, dans ma première mission sur la station Mir en 96, nous n'avions la possibilité de communiquer avec le sol que lorsque nous passions au-dessus d'une antenne située sur le territoire russe, c'est-à-dire qu'on avait 10 minutes de communication. Donc ça, c'était pour moi les astronautes du 20e siècle. C'est pas très facile pendant un vol de 6 mois, effectivement, quand vous n'avez que 10 minutes par jour dans l'exploitation, la maintenance de la station et 10 minutes toujours grignotées par des problèmes techniques le dimanche pour communiquer avec votre famille. Ensuite, il y avait les radios amateurs qui étaient là avec leurs antennes, une fois de plus, pointées vers le ciel Et on avait cette possibilité de communiquer par le système de radio amateur avec des écoles en Australie, avec des écoles dans le monde entier. Et ça, j'en garde un souvenir tout à fait ému. Aujourd'hui, au 21e siècle, ben voilà, c'est le monde de la digitalisation, c'est le monde de l'Internet, c'est le monde de l'accès et de la communication. Donc effectivement, la station spatiale en orbite basse est en lien constant avec le sol et en temps réel. Donc les astronautes vous envoient, nous envoient des photos absolument magnifiques de le regard par le hublot, sont en communication avec le sol, ont accès à Internet et aux réseaux sociaux, communiquent en visioconférence avec leur famille. Donc effectivement, ce 21e siècle dans la Station spatiale internationale, c'est beaucoup plus confortable pour ce qui est de la communication, ce qui permet d'ailleurs, parce qu'il y a à bord de la Station spatiale internationale de multiples laboratoires qui permettent de travailler dans des conditions formidables, d'avoir une recherche scientifique, une recherche technologique d'une très, très grande qualité aujourd'hui.
Sur l'exploration spatiale, depuis quelques années, ça semble être reparti plus du côté privé, avec des initiatives comme celle de Elon Musk, SpaceX, etc. Ce regain d'intérêt pour l'espace, j'imagine qu'il vous fait plaisir.
Oui, bien sûr, il me fait plaisir. Alors, je dis souvent que je fais partie des astronautes génération Apollo. Et puis, depuis une dizaine d'années, ben, effectivement, on est entré dans une ère que certains qualifient de « new space », un espace nouveau, qui est beaucoup plus en émulation et en coopération entre des intérêts institutionnels, classiques, gouvernementaux, des agences gouvernementales ou intergouvernementales, et puis des entreprises privées qui stimulent la technologie, qui ont changé la façon de concevoir, par exemple les lanceurs. On parle beaucoup des lanceurs réutilisables, comme le Falcon 9 d'Elon Musk et d'autres entreprises. Et des visionnaires qui, effectivement, accompagnent cette dynamique pour l'exploration habitée lointaine. On parle de retour sur la Lune, on parle de mission martienne, là aussi on en parle beaucoup. Et c'est vrai que les jeunes astronautes d'aujourd'hui, c'est une génération Musk. Mais je trouve que tout ça est très stimulant parce que ça nous amène peut-être, nous, entreprises classiques du monde du spatial, d'ouvrir nos actions à des entreprises qui ne sont pas du monde du spatial. J'imagine, par exemple, ces missions vers la Lune. On s'installe sur la Lune, on y développe des habitats, des infrastructures pour y vivre et y travailler. Vous allez y avoir des problèmes d'énergie, des problèmes de communication, des problèmes d'économie circulaire pour gérer les déchets, des problèmes d'extraction de ressources potentiellement sur la Lune pour y fabriquer oxygène et hydrogène dont vous aurez besoin pour vivre. Tout ça, ce n'est pas les entreprises du spatial qui s'en chargent, ce sont des entreprises d'autre nature. Donc, c'est à la fois l'espace qui s'associe au non-spatial et puis le public qui coordonne ses efforts avec le privé, à la fois pour la stimulation technologique, l'innovation, et puis effectivement des prises de risques, des levées de fonds, des participations qui vont permettre d'aller plus loin. J'insiste quand même sur un point particulier qui pour moi a été un moteur dans ma vie, c'est que ces grandes aventures scientifiques et technologiques qui dépassent des petits intérêts locaux et qui sont nécessaires vis-à-vis des enjeux globaux sur lesquels aujourd'hui on doit agir, le changement climatique, les réserves en eau, la biodiversité, la cybersécurité, tout ça nécessite d'avoir une coopération dans la recherche. Et pour moi, la Station spatiale internationale est un magnifique outil diplomatique au service de cette coopération.
J'ai en premier évoqué Elon Musk. Lui, son grand projet, c'est d'aller sur Mars et plus que ça, que des gens s'y installent, développer des habitats, etc. Enfin, faire une vraie colonie martienne comme beaucoup de films l'ont imaginé auparavant. Est-ce que c'est crédible et si ça l'est, vous pensez que ce serait possible à quelle échéance que ça arrive le premier homme sur Mars et puis la première maison sur Mars?
Oui, mais c'est une question qui traverse toutes nos possibilités d'avancer. Aujourd'hui, ce qu'on peut assurer, c'est qu'avant la fin de cette décennie, il y aura un retour de hommes et femmes sur la surface de la Lune. Aujourd'hui, il y a encore le programme Artemis lancé par NASA avec un premier alunissage en 2024, qui sera peut-être un petit peu décalé, mais tout ça, de toute façon, avant 2030. Et puis, nos partenaires, amis, compétiteurs chinois, qui eux aussi ont un programme aujourd'hui émergent dans le domaine de l'exploration habitée et qui planifie des missions habitées vers la Lune. Donc, tout ça, c'est du présent. On s'y prépare, les astronautes sont déjà à l'entraînement. Donc, ce n'est pas du tout de la science-fiction, ce n'est pas du tout de l'utopie. Par contre, se dire que des missions martiennes vont arriver dans les 5 années ou 10 années qui viennent, ça, c'est très, très compliqué. On attend aujourd'hui les missions martiennes automatiques et on a 3 sondes qui sont parties. On attend en 2021, d'ici quelques semaines, quelques mois, l'atterrissage de Perseverance, l'atterrissage chinois et puis l'orbite du satellite Emirati. Par contre, la présence de l'homme sur Mars, ça veut dire qu'on aura résolu des problèmes qui, aujourd'hui, n'ont pas de solution encore. Des missions de très longue durée, avec l'impact que ça peut avoir sur la physiologie, pas simplement parce qu'on est en microgravité ou gravité réduite, mais parce qu'on va se trouver confronté à un champ de radiation et ne plus être protégé par la magnétosphère terrestre quand on reste en orbite basse. Donc, ce sujet-là, un voyage de très, très longue durée, on parle de missions qui feront plutôt 18 mois, et ça, on n'en a pas encore l'expérience. Et puis, savoir être suffisamment autonome pour aller sur la planète Mars, repartir de la planète Mars et y vivre avec le peu d'éléments qu'on aura à apporter avec nous dans notre petite caravane spatiale. Mais il faut avoir des visionnaires qui nous poussent à aller plus loin, à dépasser les limites, ça c'est très important. Et je pense que cette impulsion-là, elle est formidable parce qu'elle nous permet de progresser. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je peux qualifier peut-être de dérive, de se dire que notre planète Terre est une planète qu'on doit abandonner parce que de toute façon, c'est irrécupérable aujourd'hui à cause de l'impact et de sa dégradation et qu'il faut absolument nous trouver une planète de secours que nous irions coloniser ou nous installer en ne se souciant plus de la Terre. Ce n'est pas du tout ma philosophie, ce n'est pas la philosophie des agences spatiales aujourd'hui, c'est de donner le maximum de synergie entre la protection de notre planète et l'innovation sur Terre en utilisant l'innovation de l'exploration vers des lieux plus lointains et pas du tout de laisser tomber cette planète Terre absolument magnifique.
Une toute dernière chose, vous avez évoqué tout à l'heure, bien sûr, l'urgence climatique un peu partout sur Terre. On l'a vu très concrètement l'an dernier en Australie avec ces terribles incendies. Est-ce que la recherche liée à l'espace peut nous aider d'une manière ou d'une autre à soigner notre planète ?
Mais bien évidemment, c'est un des objectifs essentiels. Ce que je vous ai raconté au sujet de ces photographies qui sont envoyées depuis l'espace, des feux en Australie, par exemple, il y a des photographies absolument terrifiantes qui ont été envoyées depuis l'espace. Ça, c'est une façon de mettre nos yeux d'être humain en face de ce qu'on peut voir, ressentir, percevoir. C'est important. Mais il y a tous ces satellites automatiques, ces constellations, ces satellites d'observation de la Terre qui sont au service de cette compréhension des interactions entre atmosphère, les océans, les radiations. Et il y a même ce qu'on appelle un Science Climate Observatory, un observatoire de la science au service de la recherche climatique. C'est là aussi une coopération entre de multiples États dans le monde qui mettent ces possibilités techniques de l'observation de la Terre pour mieux comprendre, analyser, prévenir, anticiper et puis pourquoi pas transformer les politiques publiques aujourd'hui en ce qui concerne la déforestation, l'agriculture, le contrôle des océans. Donc, bien sûr, tout cet espace au service de la société et au service de la planète, au service des objectifs du développement durable, c'est quelque chose qui mobilise complètement toutes nos équipes de scientifiques et de techniciens.
Eh bien, merci beaucoup, Claudie Nuret.
Et au plaisir d'être proche avec vous et de venir vous rendre visite en Australie dès que possible. Merci.
Vous êtes la bienvenue quand vous voulez et aussi vite que vous le pourrez surtout. Merci.
Merci.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Il est 13h58, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. La police fédérale australienne qui a été notifiée d'une lettre envoyée au Premier ministre détaillant une allégation historique de viol contre un haut membre du gouvernement. L'Arabie Saoudite dit qu'elle rejette complètement les évaluations et les findings, comme on dirait en anglais, de l'autorité américaine sur le meurtre de Jamal Khashoggi. Et en sport, en football, Perth Glory se hisse à la 5e place du classement de la A-League avec une victoire 3-1 contre le numéro 2 du classement, les Brisbane Roar. Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le français sur Radio SBS. C'est bien entendu demain à 13h et mardi, jeudi, samedi prochain à 13h également. Rendez-vous sur notre site internet sbs.com.au/french et également sur Facebook. Car oui, nous sommes de retour sur Facebook, facebook.com/sbsfrench. Je vous laisse avec la douce voix de Isolt et cette chanson indélébile. À demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.